Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. Bateaux de légende, marins intrépides et batailles navales. Même si on n'a pas le pied marin, nos imaginaires sont remplis d'images, d'objets et de récits liés à la navigation en mer. Le Musée national de la Marine est le conservatoire vivant de cet héritage d'une immense diversité, constamment enrichi d'objets et d'œuvres au gré des évolutions de la marine militaire, marchande, scientifique, de pêche ou de plaisance. Grâce à la variété de sa collection et à son réseau d'entités, de Rochefort à Brest, de Toulon à Port-Louis, le musée perpétue cette mémoire collective de l'art de la navigation et de la relation des hommes et des femmes à la mer. Et c'est juste avant la réouverture de son site parisien, à l'automne 2023, que l'institution nous a accordé le privilège de pénétrer dans ses réserves pour y découvrir une collection riche d'environ 30 000 pièces. Au cours de cet épisode, la restauratrice Bénédicte Massiot et les chargés de collection Marine Desormeaux et Sylvie David Rivérieux seront les conteuses de plus de 400 ans d'histoire de mer et de marin. Alors, tous sur le pont. Bonjour Bénédicte, merci de nous accueillir. Vous êtes donc restauratrice du patrimoine et vous allez nous accompagner dans cette première partie de cette déambulation où en fait, au travers de l'atelier de restauration, nous allons comprendre l'histoire du musée.
Bonjour François, donc je suis ravie de vous accueillir au Centre de conservation et de ressources du Musée national de la Marine. Pour remettre un peu en contexte l'histoire maritime, l'origine du Musée national de la Marine et de la formation de ses collections est à mettre en relation avec l'engouement du XVIIIe siècle pour les voyages d'exploration, pour la diffusion de la culture scientifique et technique.
Quelle est l'origine véritable de la collection ?
Eh bien, en 1748, l'inspecteur général de marine, qui s'appelle Henri-Louis Duhamel du Monceau, décide de donner sa collection personnelle à Louis XV. Et il en met deux conditions. Il demande d'une part à ce que sa collection soit exposée au Louvre, et d'autre part à ce qu'elle serve d'instruction pour les élèves officiers de marine.
Maintenant, puisque vous êtes la magicienne de la restauration, vous allez nous emmener vers le lieu où l'on restaure des objets. Mon petit doigt me dit qu'il va être question de miniatures parfaites, et également d'un amiral extraordinaire qui a joué un rôle très important dans les collections. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça. Veuillez me suivre, je vous amène jusqu'à l'atelier de restauration.
Allons-y. Donc l'atelier de restauration se trouve où ?
L'atelier de restauration se trouve à l'étage.
Oui.
Et c'est un espace assez extraordinaire puisqu'il mesure 250 mètres carrés. Donc
oui.
C'est assez rare d'avoir un outil aussi performant au sein d'un musée. Et vous allez voir, il est très chargé, il y a énormément d'objets. Donc là, on passe devant en fait, les armoires d'inventaire.
Oui.
Et puis on va rejoindre par une passerelle l'atelier de restauration. Alors tout est sous badge. Hein. C'est considéré comme étant un espace de réserve.
Bénédicte, nous venons de rentrer dans votre atelier de restauration, qui est très étonnant parce que c'est à la fois un lieu presque de haute technologie, très bien éclairé, avec des grandes baies vitrées. On voit des bras articulés, des éléments presque de laboratoire scientifique. Et en même temps, on voit ces fameuses miniatures parfaites dont vous me parliez, c'est-à-dire des maquettes. C'est une question un peu candide, mais à quoi sert une maquette ?
Alors déjà, on parle plutôt de modèle réduit de navire. La maquette, c'est plus un objet qui est une reconstitution sous la forme de diorama. Mmh. Donc la plupart des modèles que nous avons au sein des collections sont en fait des modèles réduits de navire, c'est-à-dire qu'ils représentent un navire taille réelle à échelle 1. Ce sont des sortes de conservatoires, des techniques et des usages qui étaient liés à la navigation d'une époque.
Votre collection est une collection composite, on peut dire, avec des objets de provenance différente, de nature différente. Comment on fait, quand on est restaurateur, pour embrasser en fait la diversité des problématiques de restauration de ces objets ?
Alors déjà, nous sommes trois restauratrices du patrimoine à travailler au sein de cet atelier. Trois restauratrices avec des spécialités complémentaires. Une première qui est spécialisée en sculpture, qui s'appelle Daria Gorbacheska. Une deuxième restauratrice en mobilier, qui s'appelle Isis Bachelet. Et moi-même qui suis en métal. Et toutes les trois, nous travaillons au sein de cet espace, à la fois sur des objets de notre spécialité, mais également sur les maquettes de bateaux. Alors nous travaillons à plusieurs sur les objets, en fonction de nos spécialités, pour aborder à la fois les problèmes, par exemple, de corrosion, de collage du bois, d'adhésion des couches picturales. Et nous avons en plus une spécialité qui est intrinsèque au Musée national de la Marine, qui est celle de la connaissance technique liée au gréement et à la fabrication des objets. C'est une histoire qui nous a été léguée par les générations d'avant, notamment par des modélistes gréeurs qui ont formé ensuite des ouvriers d'État et qui nous ont formé, nous, restauratrices du patrimoine.
Qu'est-ce que c'est qu'un gréement ?
Un gréement, donc c'est l'ensemble en fait de tous les cordages, les voiles et toutes les petites pièces d'accastillage, donc les poulies, les crochets, qui permettent de mettre en place les voiles sur un bateau.
D'accord. Mais vous avez l'air sereine devant ce défi, mais c'est quoi la grande angoisse d'un restaurateur de marine ?
Pour nous, la principale difficulté, c'est la restauration du gréement du cordage. Oui. Et ce sont les premiers à souffrir des variations hygrométriques ou d'une exposition prolongée aux UV. Du coup, ces cordages se rompent. Mais ces cordages, comme sur un vrai navire, ils retiennent tous les espars, donc tous les mâts, les vergues, tout est monté et tout a un sens technique. Et nous transmettons ces connaissances sur la fabrication du cordage, mais également sur le matelotage. Donc le matelotage, c'est tous les nœuds, parce que le cordage, c'est bien beau de le faire, mais ensuite, il faut l'attacher sur le bateau. Et donc, on le raccorde de la même façon, on l'amarre, on dit, que sur le modèle original.
Alors, vous vouliez maintenant nous emmener vers une œuvre particulière qui, je crois, symboliquement, est très importante dans la collection. On se dirige vers cette œuvre. Quelle est-elle ?
Alors, voici une œuvre qui appartient à la collection de l'amiral Paris. Donc, voici devant ce qu'on appelle un donnie à balancier de l'île de Ceylan, donc au Sri Lanka. Pour s'imaginer ce que c'est qu'un donnie à balancier, puisque c'est plus commun, c'est une sorte d'embarcation de petite dimension, d'environ 70 cm de long, en bois, avec sur un côté, donc le côté bâbord à gauche, des bras de levier avec un balancier qui compense le roulis, et la coque en bois avec des ligatures en textile a été recouverte d'une natte de coton.
Alors ce fameux amiral Paris, qui est-il ce personnage mystérieux ?
L'amiral Paris a participé à trois voyages autour du monde, entre 1824 et 1840. Et à chaque escale, il a entrepris de dessiner des plans, des bateaux, des navires et des embarcations, surtout de pêche et de commerce, qu'il croisait, donc des peuples sources. Donc il est revenu avec des centaines de plans à l'échelle et avec beaucoup de textes qui décrivaient à la fois les bateaux, leur mode d'assemblage, leur technique, mais des textes aussi qui expliquaient l'usage qu'on pouvait faire de ces navires. Et donc, l'amiral Paris, de par ses textes, est considéré comme étant le premier ethnographe nautique.
On peut considérer qu'avec l'amiral Paris, c'est vraiment le début de la mémoire de la navigation qui se met en place.
En fait, l'amiral Paris, en 1871, est devenu directeur du Musée national de la Marine, enfin du musée naval de l'époque, et a entrepris de faire réaliser environ 190 modèles d'après ses plans. Et les navires qu'il a fait représenter n'existent plus aujourd'hui.
Mais Bénédicte, merci de nous avoir conté les mystères de la restauration marine. On ne pouvait pas imaginer que c'était aussi complexe, passionnant. On a appris beaucoup de choses. Et moi qui étais un modéliste et un maquettiste assez piteux, ça me donne envie finalement de repartir et de faire des modèles d'amateurs. Voilà, merci en tout cas de nous avoir livré tous ces mystères qui, je pense, intéresseront beaucoup nos éditeurs.
Bah, je vous remercie beaucoup d'être passé par l'atelier de restauration et puis d'avoir partagé avec moi ma passion.
Après avoir rencontré l'amiral Paris dans l'atelier de restauration, une toute autre ambiance nous attend. Cap sur l'univers des croisières transatlantiques avec notre deuxième conteuse, Marine Desormeaux. Voilà Marine Desormeaux qui nous rejoint. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine, prénom magnifique et en plus une sorte de prédestination en fait.
Tout à fait.
Mais est-ce que vous êtes navigatrice ?
Absolument pas.
Pas du tout. Mais vous êtes passionnée quand même par la navigation.
Évidemment.
Vous l'êtes devenue ?
Oui, en quelque sorte.
Bon, moi, on m'a dit de toute façon qu'après cet épisode, j'allais devenir un navigateur accompli. Donc bon, on peut espérer en tout cas. Donc vous êtes chargée de collection, je crois.
Exactement.
Je pressens que vous allez nous emmener vers des mystères particuliers, notamment un certain génie de la mer.
C'est tout à fait ça. Allons-y.
Alors allons-y. Où est-ce que vous nous emmenez là ?
On va presque au bout du bâtiment.
Au bout du monde ?
Au bout du monde, presque. Ah. On va dans l'espace qui nous sert à conserver les embarcations échelle 1, c'est-à-dire des modèles navigants,
oui.
Et des objets de grande dimension, et le génie de la mer en fait partie.
D'accord. On est parti en fait des petits modèles,
oui.
Et puis maintenant on va vers des embarcations réelles.
C'est ça.
D'accord. Donc là, on pénètre dans une sorte de grand hangar dans lequel sont entreposées toutes sortes d'embarcations, c'est bien ça ?
C'est ça. Bateaux de pêche, canoës, embarcations diverses, extra-européennes, de plaisance, tout est là.
Bon, alors on va vers des choses beaucoup plus politiques. Le génie de la mer.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est que ce génie de la mer ?
Le génie de la mer, c'est un plâtre monumental,
oui.
7 mètres de haut.
7 mètres de haut ?
C'est une sculpture de Carlos Arabezol, qui est un sculpteur du XXe siècle,
oui.
Qui, au début des années 30, a reçu une commande de la Compagnie Générale Transatlantique.
Oui.
C'est la compagnie qui a lancé le paquebot Normandie, et on lui a demandé, comme à d'autres artistes, de décorer ce paquebot, en créant une sculpture pour la plage arrière des premières classes.
Et donc on va découvrir la vraie sculpture ? Ou c'est une réplique ?
Là, le plâtre qu'on a, c'est le plâtre d'exécution, c'est-à-dire qu'il a servi à faire le bronze.
D'accord.
Le musée a un temps conservé le bronze, mais il est aujourd'hui à Marseille, devant le siège de l'héritier de la Compagnie Générale Transatlantique, qui est CMA-CGM.
Mmh.
Donc là, nous sommes devant le plâtre, enfin, devant des morceaux du plâtre.
On voit qu'il y a une caisse en bois, qu'il est recouvert d'un plastique. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le génie ?
Alors, la découverte se fait en plusieurs étapes. Là, nous avons le bas, donc la queue du triton, parce que le génie est figuré sous les traits d'un triton. Donc là, nous voyons sa queue qui s'enroule en volute, et derrière, trois dauphins en plein saut qui suivent le triton. Il y a le torse qui est ici. C'est la tête, le ventre
torse.
Et le haut des jambes.
Oui. Magnifique.
On voit sa chevelure d'algues et ses traits assez épurés, très caractéristiques en fait de l'art déco.
De l'art déco.
Est là dans les années 30, on est en plein dedans.
Cet artiste, était-il spécialiste des figures marines ou non ?
Pas du tout. Il est, on peut dire, spécialiste du monumental.
Quand on voit cette culture en morceaux, on peut l'imaginer sur ses 7 mètres de haut. Et donc, il se trouvait sur le pont arrière du Normandie ?
Exactement, du Normandie. Le Normandie était très richement décoré. Tous les artistes de renom qui étaient contemporains de la construction du Normandie ont été mobilisés pour décorer salon, salle à manger, espace intérieur, extérieur.
Pourquoi est-ce qu'au fond, on érige une statue d'une telle monumentalité sur un bateau comme celui-là ? Est-ce que ça correspond en fait à un goût nouveau de ces nouveaux clients qui veulent faire des croisières transatlantiques ?
Il est clair qu'il a été décidé de faire de ce paquebot, mais d'autres paquebots aussi contemporains, des vitrines de la création française contemporaine. À la fois des vitrines techniques, technologiques, mais aussi des vitrines artistiques pour magnifier ces voyages.
À quoi correspond en fait cette montée du décor naval dans cette époque ?
Alors, le décor naval des paquebots en particulier s'inscrit dans une tradition beaucoup plus longue et beaucoup plus large que celle de l'histoire des paquebots en particulier. Le décor naval est une tradition du décor des navires militaires, des navires de commerce, dans une moindre mesure des navires de pêche, qui remonte pour l'apogée vraiment du décor naval des navires militaires au 18e, 19e siècle. Ce décor naval disparaît avec la fin du 19e siècle. En revanche, dans la marine de commerce, on assiste petit à petit à des renaissances successives de cet art de la sculpture navale. Il y a par exemple des pétroliers qui, dans les années 50, se sont ornés de figures de proue. Et donc le Normandie s'inscrit dans cette acception plus large du décor naval qui dépasse la figure de proue seule et qui concerne l'ensemble du navire.
Mais ça correspondait à quoi, le fait d'orner un bateau d'un décor naval ? Un élément de prestige, un élément pour impressionner ?
Il y a tout ça, il y a aussi la volonté d'être reconnu, plus ou moins facilement, et c'est notamment ce qui a pu limiter l'usage de ce décor naval et de cette sculpture navale dans la marine de guerre.
Il y a aussi une volonté de se protéger à travers ces figures-là qui ont une fonction symbolique et protectrice assez forte.
Cette culture monumentale, est-ce qu'elle a finalement abouti sur le pont du navire ?
Alors, elle a abouti sur une sculpture en bronze, ça c'est certain, et la sculpture en bronze était bien destinée à décorer le pont du navire. Sauf que, qui dit sculpture en bronze, dit poids énorme. Qui dit paquebot, à cette époque-là, dit vibration. Les deux étant incompatibles, finalement, le génie de la mer en bronze n'a jamais navigué à bord du Normandie.
Je crois que vous nous emmenez maintenant dans un autre lieu, qui est un lieu aussi particulier, puisque je crois qu'on va entendre parler d'une femme sur un bateau. C'est bien ça ?
C'est bien ça, c'est bien elle.
Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer ?
J'avais envie de vous montrer quelques tirages photographiques d'Anita Conti. C'est une femme assez exceptionnelle qui a vécu tout au long du XXe siècle, puisqu'elle est née en 1899 et morte en 1997. Elle a une formation de relieuse. Mais assez rapidement, elle s'est tournée complètement vers l'océan, puisqu'elle a embarqué sans cesse à bord de navires de pêche, à bord de navires de guerre. Elle a suivi des opérations de déminage et à bord de navires océanographiques.
Et pourquoi cette passion comme ça chez cette femme ?
Elle a... dans son enfance, dans son adolescence, réalisait plusieurs séjours au bord de la mer et elle s'est vraiment emparée de ce sujet, plus particulièrement du sujet de la pêche.
Vous voulez nous montrer, je crois, des photos qu'elle a réalisées, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà.
Une série de tirages qui a été ensuite publiée, diffusée dans une revue qui s'appelle Neptunia, la revue des amis du musée de la marine, dans laquelle elle a réalisé un article intitulé « Chalutage » assez sobrement et elle a fait état de la campagne qu'elle a réalisée dans les années 50 à bord d'un navire océanographique.
C'est des photos noir et blanc.
C'est ça.
Ouais, où on voit en fait le métier de marin-pêcheur.
C'est ça. On voit à la fois d'un côté le métier de marin-pêcheur, comme sur cette photographie où on voit un filet plein de poissons, mais on voit aussi le travail des océanographes, des scientifiques qui, eux, avaient pour mission d'identifier les espèces de poissons présentes dans un lieu donné pour ensuite dresser des cartes de pêche. Donc ils identifient les espèces, ils identifient aussi l'âge des poissons, et c'est ce qu'on voit ici, puisqu'ils sont quatre autour d'une balance, au crochet de laquelle est accroché un panier en osier dans lequel se trouvent des poissons.
Et par exemple, on voit toute la question là qui est sous-jacente, la ressource de pêche. Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire qu'elle a été un petit peu à l'origine de tout ce qui est aujourd'hui ces questions sur l'écologie préventive, les ressources marines ? Elle s'est intéressée ?
Tout à fait. Ça s'est fait au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'à force d'embarquer, elle a assisté à plusieurs choses. D'abord, aux déchets de poissons, à ce qui était relâché au moment de la pêche. Dans le chalut, on ne garde pas tout, on garde certaines espèces qu'on est venu pêcher. Le reste, c'était souvent jeté. Et elle a alerté sur ce gaspillage d'une partie du poisson en faisant notamment la promotion de certaines espèces qui n'avaient pas la cote à ce moment-là, notamment le poisson sabre qui n'était jamais considéré comme comestible et ensuite devenu, notamment grâce à son travail, un poisson qui s'est vendu et qui s'est mangé.
Donc au travers finalement de votre intérêt pour Anita Conti et du rôle de pionnière qu'elle a joué, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que le Musée national de la marine a un rôle important en matière d'éducation écologique ? Et notamment vis-à-vis des générations qui sont plus jeunes.
Oui, le musée, par son essence, a un rôle, une vocation d'éducation au sujet qu'il développe, et nous, c'est la mer. Donc, à la mer sous tous ses aspects, à la mer comme élément d'une stratégie militaire, à la mer comme ressource, comme moyen de faire voyager des hommes et des marchandises. Mais en effet, aujourd'hui, la question de la sensibilisation à l'environnement, à l'écosystème marin, est de plus en plus importante. Et on voit que ça n'a pas toujours été le cas dans les collections du musée, comme dans la société. Et de plus en plus, le musée se fait écho, autant que possible, de ces questionnements.
Donc cette fameuse Anita Conti, qui est quand même assez fascinante, hein. Comment elle s'est imposée, en fait, par rapport à ce monde d'hommes ?
On lui a souvent dit, mais vous êtes un garçon manqué, d'embarquer ainsi à bord dans des conditions pas toujours faciles. Et systématiquement, elle répondait, non, je suis une femme réussie.
Ah, c'est beau ça.
Donc ça dénote à la fois son caractère et sa volonté de s'imposer dans ce milieu-là.
Marine, nous vous quittons maintenant en vous remerciant énormément de nous avoir fait découvrir ce monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre visite et à bientôt.
Sylvie David-Rivérieux est chargée de collections plaisance et sport nautique. Elle connaît le musée comme sa poche. D'ailleurs, elle en parcourt les réserves comme elle arpente les couloirs de sa propre maison. Et elle a du monde à nous présenter. Sylvie, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, et vous? Merci de nous accueillir.
Ravi de vous accueillir.
Alors, où est-ce qu'on va?
Alors, on va aller dans cette réserve qui est une réserve dévolue à la peinture.
Oui.
Qui est un endroit que j'aime particulièrement. Mais j'aime toutes les réserves, oui. Je dois dire. J'aime tout.
Oui, mais il paraît que vous revenez la nuit, donc...
Non, ça, c'est pas très vrai.
Bon. Alors, en effet, peinture accrochée. Donc, on est dans une salle qui fait à peu près, quoi, 150 mètres carrés. On trouve, en fait, des tableaux qui sont accrochés à des rails, hein, c'est ça?
Tout à fait. Oui. Donc là, c'est vraiment une pièce extrêmement bien faite, où nos tableaux sont préservés, sont à l'abri de la lumière, de la poussière, de tout.
Vous voulez nous diriger maintenant vers, je crois, un portrait, qui est un portrait particulièrement emblématique.
Un tableau effectivement assez curieux,
oui.
Qui est assez émouvant, qui représente un sculpteur de figures de proue en 1845. Ah ben, il est là. Oui, c'est déjà un tableau d'une belle taille.
Peut-être que vous pouvez nous le décrire, parce qu'il est quand même particulier, ce tableau.
Oui. Alors, c'est un homme qui porte un chapeau haute forme, qui est en tenue civile, qui est en train de travailler. Son métier, c'est d'être sculpteur de figures de proue.
Alors, on voit, il y a un burin et un marteau, c'est ça?
Oui, une gouge.
Oui. Hein.
Et alors, ce qui est très amusant, c'est cette tenue, parce que c'est quand même incongru. Il n'est pas en habit de travail, oui. Mais il est flatté d'être représenté ainsi, et donc il s'est mis en belle tenue. Oui. Et il y a quelque chose qui est assez original, c'est la modernité de son gilet,
oui.
Qui est rayé.
Oui.
À notre époque, la marinière est vraiment un emblème national, hein, pour les marins, et il a sa lavalière, il a un haut de forme, c'est vraiment pas tout à fait la tenue qu'on met dans un arsenal à l'atelier de sculpture. Alors, ce qui est amusant dans les figures de proue, c'est souvent, vous les regarderez maintenant que vous savez que c'est à l'avant du bateau, une figure de proue n'a pas d'yeux, elle ne regarde pas. Et pourtant, elle regarde la mer. Parce qu'avant, la figure de proue avait un rôle protecteur.
Mm-hmm.
Donc, il y avait les yeux qui étaient sur les bateaux égyptiens, par exemple.
Mm-hmm.
Ou des figures de proue qui faisaient peur, comme les drakkars et les snekkars pour les vikings, hein, des dragons ou des serpents.
Là, vous nous faites rentrer, en fait, un peu dans notre enfance, quand même. Parce que tout d'un coup, revient à ma mémoire la licorne. Capitaine Haddock. Tout notre univers, finalement enfantin, est peuplé de figures de proue.
Ce qui est amusant aussi dans les réserves, c'est de choisir peut-être une thématique. Moi, j'avoue que j'aime bien les portraits, les figures.
Et qu'est-ce que vous aimez dans les portraits, d'ailleurs, dans les figures?
Ça reflète un petit peu le personnage, ça rappelle un moment d'histoire, et ça, c'est assez sympathique.
Alors, par exemple, on peut tirer des rails comme ça au hasard?
Oui, tout à fait. Je vous propose d'aller par là. Ici, c'est à bord du Montebello, donc c'est un jeune matelot. On voit qu'il a été enrôlé tôt et il a le visage sérieux et un peu dur aussi. Et pourtant, il est très jeune.
Il porte une marinière blanche. Enfin...
Oui, il a la tenue réglementaire, il a son sac de marin sur l'épaule, il a son,
il est prêt à
son bachi avec les deux petits liards à l'arrière.
Qu'est-ce que vous appelez le bachi?
Le bachi, c'est, bon, vous connaissez, c'est le béret avec le pompon rouge.
Ah oui, d'accord.
Qui porte bonheur si on le touche. C'est très important d'avoir des personnages qui ont marqué la marine, tant dans leur service à la mer que leur service à l'État. Mais c'est quelquefois beaucoup plus émouvant. Je vous ai montré un simple matelot. Ça, c'est très émouvant parce qu'on garde souvent en mémoire les grands personnages, mais quelquefois, les personnages plus humbles, on ne les a pas. Et c'est pareil dans les collections de textiles. On a des uniformes, des amiraux, mais on n'a pas forcément celui d'un simple matelot.
Et est-ce qu'il y a des peintres officiels de la marine?
Oui, tout à fait.
J'ai vu que Nicolas Vial, qui est un peintre dont je suis le travail, est un peintre officiel de la marine, c'est ça?
Oui.
Alors comment on devient peintre officiel de la marine?
On doit postuler, on doit exposer au salon de la marine, qui a lieu tous les deux ans, et on doit préparer un dossier.
Oui.
Et ce dossier montre pourquoi on aime la mer et ce qu'on peint de la mer. Que ça soit les hommes, les bateaux, ou la mer tout simplement l'élément.
Mmh.
On a des peintres de tout genre, mais on a aussi des peintres qui sont quelquefois des vrais marins.
Alors je crois que vous avez aussi un peintre qui est un navigateur célèbre, Titouan Lamazou.
Ah oui, Titouan, c'est vrai. Il est peintre et écrivain de marine aussi.
Dans le cœur des Français, la course au large occupe depuis toujours une place de choix. Sylvie va nous faire découvrir ces figures légendaires de navigatrices et navigateurs qui ont marqué l'histoire de cette épopée des temps modernes. Alors, en allant à la rencontre de Florence Artaud, peut-être vous pouvez nous dire quelle est votre spécialité, Sylvie ?
La plaisance et les sports nautiques.
Oui.
Et donc, mon rôle, c'est d'enrichir les collections sur ce sujet, mais je ne m'empêche pas quelquefois de proposer autre chose.
D'accord.
Là, c'est une réserve qui est consacrée aux petits modèles, pas de grand format, hein, notamment aux modèles de plaisance et de sport nautique.
Donc là, on pénètre dans un endroit où on trouve tout de suite plein de maquettes. Oui. Et puis, là, à droite, on découvre un tableau.
Alors, c'est un portrait qui a été fait en 2015 par Titouan Lamazou de Florence Artaud, une personne qu'il connaissait très bien, avec laquelle il a navigué. Ce portrait de Titouan est très intéressant parce que c'est un portrait très sobre. Il n'y a pas de couleur, c'est au trait. Et ça correspond bien à Florence Artaud qui était sans fioritures.
Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que bon, peut-être nous rappeler un peu qui elle était et quel rôle vraiment éminent, très important, elle a joué dans la voile de compétition.
Alors Florence Artaud est une femme qui était très volontaire, très déterminée, qui s'est imposée dans un milieu essentiellement masculin, qui est la course au large. Et elle a gagné en 1990 la route du Rhum. Elle était la première femme, elle était devant tous les hommes. Et cette victoire, elle n'a vraiment pas volé, elle l'a gagnée. Ce qui m'a toujours fascinée, c'est le regard que portaient les autres marins sur Florence Artaud.
Parce que vous parlez du regard que les marins portaient sur elle. Là, c'est le regard du Titouan Lamazou. C'est lui qui a fait ce portrait.
Il l'a fait juste après sa mort.
Oui.
Vous savez qu'elle a péri tragiquement en Amérique du Sud, à bord d'un hélicoptère qui a pris feu. Et Titouan Lamazou et Florence s'entendaient très très bien. Ils ont gagné la même année une victoire nautique très importante. Florence Artaud, c'était donc la route du Rhum. Et Titouan Lamazou, c'était le tour du monde, le premier Vendée Globe. Et ils se sont retrouvés au musée de la marine où ils ont tous les deux eu ce qu'on appelle un Neptune d'or, un trophée qui leur a été remis. Bon, ils s'étaient rencontrés avant sur les pontons, évidemment, ils ont navigué aussi ensemble. Et ensemble, ils ont eu l'idée de créer le trophée Jules Verne sur une idée qui n'était pas de la leur. C'était Yves Le Cornec avait dit « Et si on faisait le tour du monde en moins de 80 jours ?» En fait, ils avaient tous une idée, c'était la liberté. Leur terrain de jeu, c'était la mer. La liberté, c'était de pouvoir prendre le bateau qu'ils voulaient, de la dimension qu'ils voulaient, avec l'équipage qu'ils voulaient, sans règles, le moins de règles possible. Donc, ils ont mené à bien cette création et ça s'est appelé le trophée Jules Verne.
Moi, vous êtes touché par ce portrait.
Oui, parce que c'était tout à fait elle, très sobre.
Vous l'avez connue ?
Oui. Florence Artaud aimait beaucoup le musée de la marine. Elle y venait, elle était très cultivée. Elle raffolait de venir voir les instruments de navigation.
Oui.
Elle les voyait en professionnel. Vraiment, elle était heureuse de venir au musée de la marine. Elle venait, comme Éric Tabarly, d'ailleurs, aimait beaucoup venir.
Il y a un lien presque charnel entre ces navigateurs.
Oui, et c'était leur maison.
C'était leur maison.
Et c'est pour ça que c'était très touchant, parce qu'en fait, Titouan est un artiste, c'est un très bon marin. Et lui, tout de suite, s'est dit, si on a un trophée, il faut que ce trophée soit exceptionnel, à la mesure de l'exploit. Et donc, il a imaginé de demander à Jacques Lang, à l'époque, ministre de la Culture, de faire une commande. C'est Tom Shannon qui a été choisi pour réaliser un trophée tout à fait incroyable.
C'est qui Tom Shannon ?
C'est un artiste américain qui travaille beaucoup sur le magnétisme.
Oui.
Tout de suite, Florence et Titouan ont demandé au musée si le musée ne pouvait pas être l'écrin de ce trophée.
Ah.
C'est un sacré clin d'œil quand même de voir Florence au musée à côté du trophée Jules Verne.
Mais ce qui est impressionnant quand on est comme moi un visiteur qui ne connaissait pas ce lieu, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait s'y promener pendant des jours, des nuits, tellement il y a d'objets insolites. Mais comment est-ce qu'on fait le tri entre tous ces objets
C'est ça qui est difficile. Un bel objet, une belle œuvre d'art, ça s'impose, on le sait. Un trophée, c'est très beau. Vous en avez peut-être vu à l'atelier, il y a la petite Coupe de France qui est magnifique. Il y a le trophée Jules Verne qui est majestueux, mais il y a des choses beaucoup plus humbles, mais qui témoignent et qui sont importantes aussi. Comment faire le tri, effectivement ? Alors, il y a des choses qui sont évidentes. On a des maquettes depuis le début. Avoir des maquettes d'objets comme des maquettes de bateaux.
Quand on pénètre dans les collections et qu'on est novice, on a l'impression, en fait, qu'il y a une accumulation d'objets qui sont hétérogènes. Et en réalité, ce que je comprends au travers de notre conversation, c'est que chaque objet a une place particulière.
Et notre rôle, c'est de conserver, de savoir chercher ou de recevoir, d'acquérir les œuvres, mais aussi de les documenter et puis de les partager, de faire rayonner.
Sylvie, je voulais vous remercier beaucoup au nom de vraiment de tous nos auditeurs parce que vous nous avez fait vivre quelque chose de très émouvant. D'ailleurs, votre rapport à ces œuvres, la façon dont vous l'expliquez, nous a donné à comprendre quelque chose, en fait, et plus que comprendre, à ressentir l'âme de ce musée. Donc, merci beaucoup pour cette très belle expérience que nous avons vécue avec vous.
C'est un très grand bonheur toujours de vous accueillir au musée. Et puis, c'est vrai que on a tous la passion dans ce musée parce que c'est un monde très fort, très juste, très impressionnant. On rencontre des gens vrais et si on peut le transmettre, on est heureux.
Vous venez d'écouter le podcast Chefs-d'œuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chefs-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Productions, développée en collaboration avec le Musée national de la Marine. D'après une idée originale de François Giannesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Bolloc-Salama. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docourteau. Mixage, Ben Auriel. À bientôt.